Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Theresa May sur le fil en Grande-Bretagne avec un Brexit qui n'est toujours pas acté, avec des élections européennes organisées aujourd'hui, avec aussi son propre camp conservateur qui se retourne contre elle. Une démission de la Première Ministre se profilerait. Nous irons à Londres dans un instant.
Les européennes ont lieu aussi aux Pays-Bas aujourd'hui. La première poussée populiste y est attendue.
Vous comprendrez d'ailleurs que l'extrême droite au Parlement européen est une réalité qui n'a pas forcément de traduction politique. Dans ce journal encore, compte rendu d'un colloque sur le sujet suicide sur un lieu de travail. Les policiers sont notamment mobilisés hier soir.
La guerre ouverte entre Donald Trump et les démocrates aux États-Unis s'intensifie. Cela porte toujours sur une possible procédure de destitution du président.
Et puis dans ce journal, nous irons à Cannes pour les critiques de notre spécialiste cinéma Antoine Guillot. Les habitués du festival Xavier Dolan et Arnaud Desplechin ont chacun présenté leur film hier. La fin de semaine promet d'être agitée en Grande-Bretagne. Les élections européennes qui s'y déroulent aujourd'hui s'ajoutent à une crise politique de plus en plus profonde sur fond de Brexit impossible. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Londres où ce matin le quotidien The Times annonce que la Première ministre Theresa May pourrait démissionner demain.
Oui, si elle ne part pas toute seule, les conservateurs vont la pousser dehors, explique le Times. En théorie, la première ministre est protégée. Elle a survécu il y a quelques mois à un vote de confiance organisé au sein du parti conservateur. Et le règlement interne lui donne le droit de rester au pouvoir sans être inquiété jusqu'au mois de décembre. Ce règlement, les conservateurs chargés de veiller à la bonne marche du parti ont pourtant voté hier pour le changer. C'est ce qu'explique le quotidien britannique. Vote secret dont le résultat a été mis dans une enveloppe scellée. Si Theresa May n'annonce pas d'elle-même demain son départ, l'enveloppe sera ouverte et elle sera forcée de partir. La première ministre est de toute façon plus fragile que jamais après la démission d'Andrea Leadsom, présidente de la Chambre des communes. Commentaire à gauche de John McDonnell, de numéro 2 des travaillistes. Le gouvernement tombe en morceaux.
Et forcément, Antoine, le scrutin européen qui se déroule aujourd'hui outre-Manche s'annonce catastrophique pour les conservateurs.
C'est ce que montrent en tout cas les sondages chez les conservateurs. Un électeur sur cinq se dit prêt à voter pour le parti de Nigel Farage, le Brexit Party, qui réclame une sortie immédiate de l'Union européenne. L'ancien dirigeant d'extrême droite n'a pas de programme, juste un slogan. Il faut changer la politique pour de bon. Et il arrive en tête avec entre 30 et 40% des intentions de vote. C'est particulièrement vrai dans l'ouest des Midlands, autour de Stoke-on-Trent, autour de Birmingham. Signe de tension, il a été il y a deux jours aspergé de milkshake par un manifestant anti-Brexit et hier, pour éviter de nouvelles attaques pâtissières, il a dû rester enfermé plusieurs minutes à l'intérieur de son bus de campagne. Reste une inconnue, le score que va faire la gauche. Les travaillistes se sont positionnés comme des candidats anti-Brexit contre l'avis de certains dirigeants du parti et ils pourraient rassembler les voix des europhiles.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Gignot en direct ce matin de Londres pour France Culture. Les Britanniques doivent, je le souligne, élire 73 eurodéputés. Les résultats, normalement, ne doivent pas être divulgués avant dimanche, fin des élections dans toute l'Union européenne. Car vous l'avez compris, les pays ne votent pas tous ensemble. Aujourd'hui, en plus de la Grande-Bretagne, les électeurs des Pays-Bas sont appelés à se prononcer pour les élections européennes. Et cela devrait être la première poussée visible des populistes. Car le parti Forum pour la démocratie, mené par Thierry Baudet, caracole en tête des sondages. Argument vu et entendu sur place avec Angélique Bouin.
Need Langmuir.
Au menu de ces meetings, immigration, valeurs traditionnelles, défense du pouvoir d'achat et climato-scepticisme, Raoul est un fan. Croisé sur un parking de supermarché, il sait pour qui il ira voter ce matin.
Thierry Baudet, parce qu'il est très moderne, très radical. Nous avons ici en Pays-Bas le même problème comme en France. Immigration, terrorisme, voilà. Et le gouvernement fait rien.
Paula, qui range son caddie, n'a rien contre les immigrés, mais elle ne votera plus non plus pour les partis traditionnels. Elle a choisi le parti animaliste.
On peut voter, mais les politiciens n'en font qu'à leur tête. Si vous leur donnez votre voix, ils disent « Ah, je ferai ceci ou cela pour vous », et puis ils font différemment, ils ne tiennent pas parole.
Maastricht, ville universitaire, à la cafétéria en plein air du département des sciences sociales, la vague populiste annoncée est dans bien des discussions. Omar explique qu'ici on étudie l'Europe et qu'avec la plupart de ses camarades, il votera contre les eurosceptiques.
Ils répandent des mensonges auprès des gens au sujet de l'Union européenne.
Je vais voter pour le plus européen des partis, parce que je pense que les populistes sont vraiment le principal danger pour l'avenir de l'Europe.
En mars dernier, les populistes du Forum pour la démocratie sont devenus ici le premier parti du Sénat.
Angélique Bouin, envoyée spéciale de France Culture aux Pays-Bas. Alors arrêtons-nous un instant sur cette extrême droite européenne. Que représente-t-elle vraiment ? La Fondation pour l'innovation politique a réalisé une projection du futur Parlement européen à partir des enquêtes cumulées des intentions de vote dans chaque pays de l'Union. Les eurodéputés hostiles à Bruxelles représenteraient un tiers des effectifs, Anne Fauquemberg.
Il n'est pas question de minimiser la poussée de ces partis anti-européens. Avec un Parlement à 751 sièges, toujours avec les Britanniques, donc, ces formations regrouperaient 35% des voix dimanche prochain, deux fois plus qu'en 2004. Pour autant, en dépit de la communication politique, le supergroupe vanté par Matteo Salvini ou Marine Le Pen n'a pas de chance d'aboutir, estime Dominique Régnier. Il est le directeur général de la Fondapol.
Ce tiers d'eurodéputés hostiles, de différentes façons d'ailleurs, je vous dis, ça d'extrême gauche à l'extrême droite. Il y a des néo-nazis quasiment et des révolutionnaires, donc c'est vraiment très éclaté, ne formeront pas un groupe. On aura une dispersion, ce qui est une cause d'inefficacité, d'impuissance au sein du Parlement européen. Aujourd'hui, grosso modo, si on regarde le groupe que Marine Le Pen et Salvini envisagent de constituer en annonçant un grand fracas, moi, il me semble qu'ils devraient avoir 10% des sièges du Parlement européen. Ils auront des ressources humaines et financières dont ils feront un usage, comme à chaque fois, à l'échelon européen et national pour faire avancer leurs idées. Mais ils ne gêneront pas le Parlement européen, ils ne gêneront pas le fonctionnement de l'Union européenne.
Un futur Parlement qui n'en sera pas moins bouleversé, toujours selon la projection de la Fondapol. Pour la première fois depuis 1979, le Parti populaire européen et l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates passeraient sous la barre des 50%. Deux groupes qui ne seraient donc plus en capacité de produire une majorité afin de co-gérer les décisions. Dominique Régnier y voit toutefois du positif, la possibilité de renforcer le parlementarisme.
Alors en France, notez que la présidente du Rassemblement National s'est opposée hier soir au patron du parti Les Républicains dans un débat organisé par France Inter et France 2. Marine Le Pen s'est moquée de Laurent Wauquiez qui lui rappelait son débat jugé raté lors de la présidentielle il y a deux ans. Elle lui a souhaité d'accéder un jour comme elle au second tour de ce scrutin. Au total, 15 têtes de liste ou chefs de partis politiques ont débattu avec des échanges sur plusieurs thèmes, l'écologie, la fiscalité notamment. Compte rendu à retrouver après ce journal avec Frédéric Seyss et son billet politique. Quelques mots encore du dernier sondage Ipsos Soprasteria réalisé aujourd'hui pour Radio France et France Télévisions. Le Rassemblement National devance toujours de peu la liste de la majorité à 24% des intentions de vote contre 23,5%. Les Républicains 3e recueillent 13% des intentions. Et puis notons que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé hier que les propos de l'Américain Steve Bannon en France ces jours-ci et actif dans les médias, que ces propos seront décomptés du temps de parole du Rassemblement National pour la campagne européenne.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Une réunion doit se tenir ce jeudi au ministère de l'économie à Paris pour évoquer l'avenir de l'acierie Ascoval dans le Nord.
Oui, une réunion présidée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire en présence des représentants syndicaux du site de Saint-Saulve dans le Nord et des élus de la région Hauts-de-France. Hier, ils ont appris que le repreneur de l'acierie Ascoval, le britannique British Steel, était placé en redressement judiciaire outre-Manche. C'est un sujet qui revient trop souvent au devant de l'actualité, avec le procès France Télécom qui se déroule en ce moment, avec aussi le malaise dans la police. Hier soir, un colloque sur le suicide dans le milieu professionnel était organisé à Paris. Compte rendu pour nous d'Emmanuel Calafiore.
Au pupitre, des femmes, des hommes se succèdent pour évoquer le suicide sur leur lieu de travail. Christophe Godard, ancien spécialiste de la souffrance en milieu professionnel, a évoqué pour la première fois le souvenir de son fils Arnaud qui s'est suicidé à l'âge de 29 ans sur sa base militaire.
Mon fils s'est tiré une balle dans la tête. C'est difficile, c'est la première fois que j'en parle, ça me sert de thérapie.
Oser parler, ne pas rester seul, préparé aux difficultés d'une carrière, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, est venu présenter 50 propositions pour tenter d'empêcher le suicide au travail. Parmi elles, augmenter le nombre de psychologues.
Ça n'a jamais été aussi important dans la police nationale que depuis ces quelques dernières années, puisqu'on a près de 90 psychologues. Mais 90 psychologues pour 146 000 policiers. Mais ça fait un psychologue pour 1 700 agents. Mais qu'est-ce que vous voulez que le pauvre psychologue, il gère ? comment il peut avoir un suivi efficace thérapeutique de policiers en souffrance. Mais c'est impossible.
Oser prendre la parole, c'est ce qu'attend le sociologue Vincent de Gaulle-Jac, auteur du manifeste pour sortir du mal-être au travail paru en 2013.
Je suis frappé par le silence assourdissant, malgré ce qui s'est passé à France Télécom. Malgré le fait que les suicides continuent, il y a eu comme une chape de plomb sur cette question-là.
Depuis le début de l'année, 29 policiers se sont donné la mort. C'est deux fois plus que l'année dernière.
C'était un reportage d'Emmanuel Calafiore pour France Culture. Le jeune homme qui a agressé Julia Boyer, une femme transgenre, au mois de mars dernier à Paris. Ce jeune homme a été condamné hier à 10 mois de prison, dont 6 mois ferme. La justice a fait son travail, a déclaré Julia Boyer à l'issue de l'audience. En bref, encore 6 mois avec sursis. C'est ce qu'a réclamé la procureure hier au procès d'un gilet jaune qui avait tenu des injures antisémites à l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut. Le jugement sera rendu mi-juillet. Nous en venons au deuxième volet de l'affaire Balkany. Le tribunal correctionnel de Paris se penche cette semaine sur les soupçons de blanchiment de fraude fiscale et de corruption à l'encontre notamment de Patrick et Isabelle Balkany ainsi que leur fils. Hier, l'audience s'est tenue autour des déclarations de Didier Schouler, l'ancien directeur de l'office HLM des Hauts-de-Seine, Florence Turme.
Il est celui par qui l'affaire a éclaté. En octobre 2013, Didier Schouler est entendu comme témoin par un juge d'instruction. Il désigne Patrick Balkany comme le trésorier officieux du RPR. « J'ai payé ma dette », ajoute-t-il. « Je constate que Monsieur Balkany s'en est bien mieux sorti. Ce que je pensais être du financement politique a servi à des fins personnelles. » Il évoque des dépenses de campagne faramineuses en 82, avant l'élection à la mairie de Levallois, et énumère les propriétés des époux Balkany. Didier Schouler n'a pas été cité comme témoin au procès et Patrick Balkany s'en indigne, c'est un mythomane de la pire espèce, tout ça parce qu'on ne lui a pas donné l'investiture au municipal de 2014. Ce serait donc une vengeance personnelle à votre égard, intervient froidement le président du tribunal. Je trouve quand même étonnant que la justice attache autant d'importance à ces déclarations, riposte le prévenu. Il a été l'homme en fuite le plus recherché de France, celui qui a fait changer le cours d'une élection présidentielle. Allusion claire à la défaite d'Edouard Balladur en 95, mais le premier compte suisse ouvert en 94 par Patrick Balkany s'affiche sur l'écran de la salle d'audience. Un compte destiné à financer un emprunt soutient Patrick Balkany qui n'a aucun souvenir d'y avoir déposé des fonds. Pas même 200 000 francs en espèces, 400 coupures de 500 francs, questionne le président. Non, répète le maire de Levallois. Aucun souvenir.
8h12 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le dépouillement a commencé en Inde après des législatives géantes dans le pays.
Oui, près de 600 millions d'électeurs se sont déplacés pour voter ces dernières semaines. Et d'après les premières estimations, le Premier ministre Narendra Modi et les nationalistes hindous devraient être reconduits au pouvoir avec une majorité absolue. Un Donald Trump furieux, c'était hier à la Maison Blanche. Le président américain a claqué la porte d'une réunion avec les démocrates. Il devait évoquer les infrastructures du pays. Mais les démocrates ont réclamé l'ouverture d'une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump. Récit signé Grégory Phillips.
La conférence de presse dans la roseraie de la Maison Blanche est annoncée à la dernière minute, mais elle n'a pas été improvisée, car les services du président ont préparé un podium spécial sur lequel ils ont écrit en lettres majuscules « Pas d'obstruction, pas de collusion ». Puis Donald Trump, qu'on a rarement vu aussi furieux, explique pourquoi il vient de claquer la porte de cette réunion. Il ne prononce pas le mot « impeachment », destitution, il dit simplement le mot avec un « i », comme s'il s'agissait d'une insulte.
Et là, j'apprends hier soir que juste avant cette réunion, les démocrates vont en tenir une autre pour parler du mot en « i ». Vous imaginez ça? Je n'ai pas parlé aux Russes pendant ma campagne, c'est une supercherie.
La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, quitte donc la Maison Blanche et commente quelques minutes plus tard la colère de Trump.
C'est pour ça que le président est si remonté, parce qu'on voit au grand jour qu'il est engagé dans une opération de dissimulation et ça pourrait justifier une procédure de destitution.
Il est vrai que Donald Trump a récemment ordonné à ses conseillers de ne pas se rendre aux convocations du Congrès. Dans les rangs démocrates, ils sont de plus en plus nombreux à penser que cela suffit à entamer une procédure de destitution, mais sur ce point, Nancy Pelosi avance à pas très mesurés. Elle sait qu'une telle démarche n'a quasiment aucune chance d'aboutir tant que le Sénat est dominé par les Républicains.
C'était Grégory Phillips, le correspondant à Washington de France Culture. C'est notre bonne habitude de fin de journal cette semaine, le Festival de Cannes, où nous retrouvons Antoine Guillot, qui visionne pour nous les films en compétition pour cette 72e édition. Antoine, bonjour.
Bonjour Clara.
Il y avait deux projections hier, les films de Xavier Dolan et Arnaud Desplechin. Deux changements de registre à chaque fois, Antoine.
En effet, Clara, troisième présence en compétition pour l'un, cinquième pour l'autre. Xavier Dolan et Arnaud Desplechin sont à Cannes comme chez eux, mais s'essayent cette année à de nouvelles manières. Le Québécois, après l'échec artistique et public de son aventure américaine, Ma vie avec John F. Donovan, toujours inédit aux États-Unis et dans son propre pays, tente avec Mathias et Maxime l'expérience de la sobriété stylistique et du retour à ses fondamentaux. Comme dans le film qu'il a révélé il y a 10 ans, J'ai tué ma mère, il joue le rôle principal face à Anne Dorval, toujours elle, en mère dysfonctionnelle pour une histoire d'ado attardé, mais maintenant trentenaire, confronté au trouble du désir. Le naturel revenant au galop, Dolan cède vite à ses tics habituels de mise en scène pour un film finalement bien anodin, qui, sans le statut d'enfant chéri de Cannes de son auteur, n'aurait rien à faire dans cette compétition. Beaucoup plus convaincant, le virage social que prend Arnaud Desplechin avec Roubaix, une lumière, comme Lajli en début de festival avec Les Misérables. Le cinéaste suit une équipe de policiers pour ausculter la misère des quartiers pauvres de sa ville natale, mais ni affrontement ni compétition viriliste ici, c'est dans le plus grand calme et avec un immense respect que se mène l'enquête inspirée d'un fait réel sur le meurtre d'une octogénaire par deux jeunes marginales. En commissaire de police maïoticien des âmes, entre Maigret et Kojak, Roche Dizem tient le rôle de sa vie et se place en très très bonne position pour un prix d'interprétation samedi.
Les paris sont pris, merci beaucoup Antoine Guillot en direct de Cannes. De belles éclaircies encore ce jeudi, notamment sur la partie est de la France. Les nuages arrivent par l'ouest avec un petit peu d'orage cet après-midi sur la Normandie. Comptez ce matin 17 degrés à Strasbourg, 18 à Lille, 19 degrés à Lyon, 20 à Paris et Bayonne et 22 ce matin à Perpignan.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.